Connaissez? C'est ça qui est dramatique. Hein. Quand je vous mets des citations, personne ne connaît. D'auteurs sérieux. Et je mets ça. Qu'est-ce que je ne dois pas faire pour capter votre attention, hein. Donc, effectivement, c'est un personnage, Gollum, et il est un des acteurs, pour ceux qui ne sauraient pas encore, il est un des acteurs principaux des livres de J.R. Tolkien. J.R., ça n'a rien à voir avec Dallas, hein, entre parenthèses. Il faut savoir, et c'est important, que Gollum n'a pas toujours été Gollum. Il fut une époque, où il s'appelait Smégol. Il était un hobbit, tout comme Bilbon Sacquet. Donc, le gars que vous venez de voir à la première vidéo, c'est le gars de gauche. Ça fait peur, hein, quand même. Qu'a-t-il bien pu arriver à Smégol pour qu'il se transforme en Gollum? Ça, c'est une terrible question. En fait, il a croisé, dans l'histoire de Tolkien, il a croisé le chemin d'un anneau de pouvoir maléfique. Il a tué pour conserver cet anneau. Et progressivement, cet anneau a pris possession de son âme. C'est ce que raconte Tolkien dans ses livres. Sa transformation physique est d'ailleurs là pour nous dire à quoi ressemble son âme. Cet anneau finira malheureusement par le tuer, malgré plus d'une tentative de le sauver. Alors je dis malgré plus d'une tentative de le sauver, parce qu'effectivement, on a tenté, dans les livres et même dans les adaptations cinéma, on a tenté de sauver Gollum. En fait, on a confié l'anneau, cet anneau maléfique, à un porteur d'anneau. On a demandé à quelqu'un, Frodon Sacquet, pour ceux qui ne connaissent pas, de porter cet anneau. Pourquoi ? Parce qu'il était le seul capable de porter cet anneau et de le détruire, afin que tous les Gollum du monde arrêtent d'être détruits par lui. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Tolkien était chrétien et qu'il a écrit le Seigneur des Anneaux après sa conversion. D'ailleurs, on est quasi sûr qu'il est venu à la foi par l'intermédiaire de C.S. Lewis, le premier monsieur qu'on a vu à la citation, tout simplement parce qu'ils se connaissaient, ils étaient collègues de travail, ils enseignaient tous les deux à l'université d'Oxford. Donc c'était vraiment loin d'être des quilles, hein, si vous me permettez l'expression. Alors, Tolkien a écrit Le Voyage du Hobbit et Le Seigneur des Anneaux pour montrer en fait quels sont les enjeux et les combats spirituels auxquels nous devons faire face. L'œuvre de Tolkien est donc une allégorie de la vie spirituelle. Alors la question qu'on peut se poser, j'arrive, c'est que représente l'anneau de pouvoir dans les livres de Tolkien. Quelle force au monde peut bien être capable de prendre possession de l'âme d'un homme pour que celui-ci en arrive à appeler ce qui le détruit « mon précieux » parce que c'est comme ça que Gollum appelle son anneau en le regardant, « mon précieux ». Ben, cette puissance qui prend l'apparence d'un anneau dans l'œuvre de Tolkien, c'est le péché. Dès lors, on comprend mieux le rôle endossé par Frodon, le porteur de l'anneau. Tout au long des livres, on martèlera que c'est son fardeau que lui seul peut le porter et qu'il est le seul à pouvoir mener à bien cette mission qui est de détruire l'anneau. Détruire le péché, un porteur du péché afin que d'autres n'en soient plus les esclaves, ça ne vous rappelle rien. Jésus, bien sûr, et c'est délibéré de la part de Tolkien, est ce porteur d'anneau, celui qui va porter le péché et le détruire. Je pense que ceux qui ont déjà vu la série vont revoir les films. Parce que beaucoup voient ce genre de trucs sans capter. Moi, je me rappelle, petite parenthèse, qu'à l'époque où les Chroniques de Narnia, certains épisodes de l'œuvre de Lewis ont été portés au cinéma, il y a un lion qui s'appelle Aslan. Enfin, tout le monde a bien compris que c'est Jésus, quoi. Eh bien, non. Un dimanche après le culte, il y a une famille qui me dit « Ah, ils vont aller voir le premier épisode des Chroniques de Narnia. » Ouais, c'est bien joué, c'est grave, hein, quand le Aslan-lion ressuscite avec la table. Comment ça, quoi ressuscite? Ben, jouer. Aslan, le lion, dans les livres de Lewis, il représente Jésus. Ah bon? On n'avait pas compris. Ça fait peur quand même. Parce que avoir un cerveau plus le Saint-Esprit et pas capter ça, il faut quand même avoir un solide problème. Je ferme ma parenthèse. Alors, vous me direz peut-être, comment pourrait-on aimer ou tenir à quelque chose qui nous détruit? Alors, la question peut paraître légitime, mais semble malgré tout manifester une profonde méconnaissance de l'âme humaine. Et il ne faut pas s'en étonner, puisque de nos jours, l'homme occidental n'a plus que peu de rapport à Dieu et semble donc bien ignorant des véritables enjeux qui le concernent. On raconte qu'un jour, un psychiatre a dû faire face à un patient atteint d'une étrange envie. « Quand je vais faire les courses au supermarché, explique le gars, et que je passe devant le rayon de nourriture pour chien, je ne peux pas m'empêcher de réfréner une envie invraisemblable de manger des croquettes pour chien. » Le psychiatre dit ça, il se dit en lui-même, ça c'est une première mondiale, on ne l'avait pas encore fait celle-là. Le spécialiste, n'ayant jamais eu affaire à ce genre de cas, se contente de demander « Depuis quand ressentez-vous cette envie ?»« Je ne suis pas tout à fait sûr, docteur. Sans doute depuis que je suis chiot. » Faut l'ardi, vous avez capté tout, ça va? Ça n'a pas été trop vite? Vous me dites, hein? Alors, je sais que ça prête à rire, c'est un peu le but, mais il n'empêche que cette petite histoire souligne une vérité profonde. Oui, j'aurais pu prendre un plus beau chien, mais il me faisait rire, celui-là. Surtout avec le filet de bave. Et je connais des gens ici, dans cette pièce, qui adorent ce genre de race. Je ne citerai pas de nom. Non, mais c'est vrai. Et là, vous ne vous rendez pas compte, mais ils pètent aussi, hein, les bulldogs anglais. Je vous assure que c'est vrai. Et en plus, c'est très con. Enfin, c'est anglais, donc enfin, soit. Et vous voyez, j'ai changé, hein. C'est moi qui... Ouais, tu vois, bon. Le Seigneur a fait de grandes choses dans ma vie. Hein. Donc, si vous croyez, voilà ce que je voulais dire, hein, cette grande vérité, si vous croyez être un chien, la nourriture pour chien vous paraîtra être une option raisonnable et même nécessaire. Ben oui. De la même manière, si malgré le fait que vous ayez l'Esprit de Dieu, pour ceux qui ont rencontré le Christ en vous, vous croyez encore que vous êtes, j'insiste sur le fondamental, un pécheur, que vous n'avez qu'une nature propre que vous ne pouvez pas dominer, que c'est votre identité profonde, ben, le fait de pécher, de sortir de la voie, de choisir la mauvaise voie, vous paraîtra normal et même souvent nécessaire. Si le péché semble tellement inévitable, c'est presque toujours parce que nous ne sommes pas en phase avec notre véritable identité en Christ. On va prendre un texte biblique quand même. Hein. Parce qu'autrement, je vais faire... Voilà. Lui, il va dire, ouais, bah, tu as pris ma parole, Frodon, voilà. Donc c'est Paul qui parle, hein, dans sa lettre aux églises de Galatie. C'était des églises qui se situaient dans le nord de la Turquie actuelle. Non, dans le sud de la Turquie actuelle. Or, si je fais ce que je ne veux pas, c'est Paul qui parle, hein, c'est un apôtre quand même, c'est pas n'importe qui. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi, alors c'est moi qui ai mis entre parenthèses pour que vous situez, hein, si vous, la situation là, donc les commandements de Dieu, pour faire simple, les 10 commandements et tout ce qui va avec. Donc, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. Donc, cette capacité qu'on a de s'autodétruire, de détruire notre environnement, et les gens, parce que tout le monde dit, tout le monde pollue, tout le monde s'en fout, et tout le monde s'étonne. Ben non, on détruit sa famille, pourquoi est-ce qu'on détruirait pas l'environnement, franchement? Et Paul dit, tout ça, c'est l'expression de cette force qui est en nous. Et Paul dit, en effet, je sais que le bien n'habite pas en moi. Ça, la plupart des gens qui disent aujourd'hui que l'homme est le centre de toute chose et qu'il faut croire en l'homme, moi, je vois mes amis, moi, je ne crois pas en l'homme. Hein. Déjà parce que je ne crois pas en moi. C'est moi qui viens de dire ça. Donc, en effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre, dans cette nature qui n'est pas régénérée par Dieu. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Ça va jusque-là? Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc cette loi, donc Paul dit, à l'intérieur de moi. Alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres, donc dans son corps, dans cette envie de faire, une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence, qui appartient à Dieu, et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Alors là, il s'exclame, on peut comprendre pourquoi. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort, de ce corps par lequel je transmets et je traduis en fait et en geste le fait que je suis dominé par une force que je ne parviens pas à maîtriser. J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur, donc de dominer cette force. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais pour ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Et on continue, ça c'est le début de Romains 8, du chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit de Dieu. C'est un texte, mais c'est très pratique ce que dit Paul, dit là. On dit parfois que le Nouveau Testament, les épîtres de Paul, c'est très théologique aussi, forcément, ça parle de Dieu. Mais Paul, moi, je trouve qu'il est extraordinairement pratique, souvent, dans ses démonstrations. Je lis ce texte de l'Épître aux Romains. D'ailleurs, je l'ai dit un peu trop vite, je pense. Donc, en résumé, je vais essayer de résumer tout ça. Pour nous, Paul, pardon, nous dit qu'un chrétien, pas des chrétiens, est habité par deux réalités. D'accord ? Sa nature propre, avec laquelle il vient au monde, ici-bas, qui ne connaît pas Dieu et qui ne peut pas le connaître parce qu'elle est marquée par une incapacité de recevoir ce que Dieu est et ce que Dieu dit. Et la présence du Saint-Esprit qui, lui, le pousse cet homme en permanence à se soumettre en toute chose à Dieu et à son amour. Il y a ces deux réalités en l'homme chrétien ou à la femme chrétienne. Donc un chrétien est un homme ou une femme qui, suite à tout un cheminement, prend conscience, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, de sa véritable nature marquée par la faiblesse, la fragilité et le péché, et qui reconnaît son besoin d'être pardonné, relevé et renouvelé. Chose que Dieu seul peut faire et a fait par l'entremise, on l'a vu dans le premier chant, de ce que Jésus a accompli. Devenir chrétien, c'est recevoir, accueillir le Christ, dont le Christ, ça veut simplement dire élu, loin, donc celui qui a reçu l'onction, hein, comme étant la source de tout pardon et de toute vie. Donc seule sa présence en nous, c'est ce que dit Paul, peut combattre cette pression constante, nous invitant à choisir un chemin qui s'avère la plupart du temps n'être qu'un cul-de-sac, un mauvais chemin. Cette pensée m'est venue ce matin, pendant que je me rasais. Ne me dites pas que vous n'avez pas remarqué que je me suis rasé. Je me suis dit, et je vous pose la question, à votre avis, pourquoi est-ce que Dieu ne nous a pas décidé, dans sa sagesse divine, de nous distribuer tous les matins, dans nos boîtes aux lettres, une tablette de chocolat, pour qu'on se sente mieux, pour qu'on parvienne à bien vivre en harmonie avec lui? Parce que le chocolat, c'est un grand compensateur. Hein. Quand on ne va pas bien, on bouffe du chocolat. Enfin, beaucoup. Moi, entre autres. Ben, c'est pour une seule raison, c'est que l'homme n'a pas besoin de chocolat pour réussir sa vie et être équilibré. Ce n'est pas son besoin essentiel. Son besoin, c'est Dieu. Et c'est pour ça que Dieu a donné son Esprit Saint, a placé sa présence à lui, personnel, en chaque homme qui lui fait confiance. Être chrétien, c'est donc, ça je l'ai rappelé quand même, parce qu'on oublie parfois, surtout les chrétiens, être chrétien, ce n'est donc pas être meilleur que les autres, mais avoir fait la paix avec Dieu, avoir reçu l'Esprit Saint comme garantie que nous n'avons pas rêvé et que nous pouvons dès lors enfin rentrer et atteindre cette nouvelle version de nous-mêmes que Dieu nous appelle chacun et chacune à être. Autrement dit, la vie chrétienne est un chemin où nous aurons à apprendre à libérer ce que Dieu a mis en nous. Donc ça veut dire que si vous essayez plus fort d'être par vos propres moyens, c'est ce qu'on continue à faire la plupart du temps, ce que Dieu désire que vous soyez, vous allez vous fatiguer, vous allez vous décourager et vous allez abandonner parce que vous comptez sur vous et pas sur lui. Alors ce que j'essaye de dire, parce que vu vos têtes, ça n'a pas l'air d'être clair, c'est que je sais que cette tendance à laisser aller en nous notre propre nature, celle qui n'est pas soumise à Dieu, elle est bien réelle, cette tendance, hein, en tout cas, chez moi. Et c'est pour ça que ce texte qu'on vient de lire, qui est de la plume de Paul, moi, me paraît d'une honnêteté invraisemblable. Parce qu'il y a encore plein de chrétiens qui prétendent soit qu'on peut dominer tout le temps, dans tous les cas de figure, le péché, soit à la limite qu'il suffit plus que de faire des choses justes, comme faisaient les pharisiens en temps de Jésus, les religieux de l'époque, pour que Dieu nous bénisse. Mais ça ne marche pas comme ça. Il y a donc, et ça il faut en prendre conscience, un combat qui fait rage en nous. Alors, comme je suis un optimiste de nature, tu parles, je me dis que c'est déjà bien qu'il y ait un combat. Si un combat, c'est déjà bien. Parce que si un combat, il y a une lutte. C'est plus grave s'il n'y a pas de combat qui est engagé. On peut donc être habité par l'Esprit de Dieu, ça je pense qu'on le sait tous, et ne résister à rien ni personne, et ne pas faire appel à cet Esprit pour nous aider à vivre. Notre union avec le Christ doit nous libérer progressivement des pressions de notre nature propre. Elles ne disparaîtront jamais, ces pressions. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'on peut être vainqueur toute sa vie, mais ce sera toujours un vainqueur dans une lutte. Je sais bien que mécaniquement, par définition, nous avons toujours tendance à vouloir supprimer les tensions, quelles qu'elles soient. dans les couples, dans les voilà, au travail. Mais parfois, il y a des tensions. Il faut apprendre à vivre avec. Elles ne disparaîtront pas. Elles nous aident à changer, nous, souvent. Les circonstances nous changent souvent, nous. Les circonstances en question changent rarement, par contre. Et pour la pression, c'est la même chose. Votre ancienne nature est toujours là et elle poussera toujours à vous faire sortir du cadre que Dieu vous fixe, toujours. Mais, c'est ce que Paul dit, puisque Jésus est en moi par le Saint-Esprit, j'ai la capacité nouvelle de pouvoir dire non. Ce que quelqu'un qui ne possède pas cette nouvelle nature en lui ne peut pas faire, bien évidemment. Donc, ce qui veut dire que même si une pression elle est réelle, il n'y a plus pour autant nécessité de céder à la pression. Pourquoi ? Parce que le péché est devenu inutile. Fini la bouffe pour chien, normalement. Le péché est donc devenu une option, et elle restera, ça restera une option toute votre vie, hein, mais plus une nécessité. Vous n'en avez pas ou plus besoin. D'accord ? Et je rappelle quand même, parce que ça me paraît important, le péché n'est pas la rencontre avec la convoitise, le fait d'avoir envie de ce qu'on nous propose, mais l'obéissance à la convoitise. Si vous passez devant un concessionnaire auto, Jaguar pour ne pas le nommer, et vous vous dites, oh, nouveau modèle, je me le paierai bien, vous avez les moyens de vous le payer. Ça, c'est la convoitise qui actionne son clignotant.
Tu as besoin de la Jaguar.
Vous n'avez pas besoin de cette Jaguar, hein, pas du tout, votre bagnole roule très bien. Eh bien, vous avez deux possibilités, deux options. Vous avez eu l'envie, mais vous passez votre chemin. L'envie, elle était là, la pression. Vous avez dit non, la pression, vous n'avez pas acheté la Jaguar. C'est une erreur, c'est une bonne bagnole quand même. Par contre, si vous rentrez chez le concessionnaire et que vous achetez la voiture, vous avez cédé à la convoitise, et là, dans mon image, hein, acheter une bagnole, ce n'est pas un péché, quoique ça dépend de la voiture. Italien, c'est un péché, surtout une grosse connerie. Mais, parce que, voilà. Mais c'est personnel, hein, je lis quand même des petits trucs. Là, dans ce cas de figure-là, vous aurez cédé à la convoitise, et c'est patatras. Alors moi, il y a un texte, je ne veux pas le prendre, hein, mais il y a un verset, c'est le plus extraordinaire, et moi qui me dérange le plus de toute la Bible, c'est un verset qui se trouve dans l'épître de Jacques, un des frères de Jésus, où il parle de la convoitise. Et il dit en gros, je paraphrase sa pensée, d'ailleurs il engueule, c'est parce qu'ils vivent n'importe quoi, en gros. Ne lisez pas Jacques si vous êtes un peu fragile au niveau de votre vie chrétienne, parce qu'il va vous achever, quoi. Vraiment, hein. Jacques, c'est du bulldozer. Il dit, en gros, il dit, quand vous rentrez dans ce schéma-là et que vous cédez à la pression, donc à la tentation, à la convoitise, en fait, vous êtes deux fois idiot. Vous êtes le chasseur, seulement ce que vous ne comprenez pas, c'est que c'est vous que vous chassez. Et il dit, et le verbe grec qu'il emploie, c'est le verbe deleazo. Et deleazo, ça veut spécifiquement dire placer un piège pour la chasse. Donc ce que Jacques dit, quand vous êtes dans ce schéma-là et que vous cédez, en fait, vous avez ouvert le piège et hop, vous mettez vous-même votre pied dedans. Donc moi, j'aime pas ce verset pour ça, parce que Jacques me dit, t'es un sinistre crétin si tu fais ça. Et ça m'est déjà arrivé. Pas chez Jaguar, j'ai pas les moyens. Puis je pense que ma femme ne serait pas d'accord, mais je sais pas pourquoi elle dit que les Jaguars, ça ressemble plus à des Jaguars. C'est pas faux, hein, ma chérie. Donc le péché n'est pas la rencontre avec la convoitise. La pression, tant que vous ne cédez pas, il n'y a pas de problème. C'est une pression. Mais par contre, si vous cédez, là, on est dans une autre dimension. Donc la pression convoitise, ce n'est pas l'acte de désobéissance en lui-même. Il y a un truc qu'il faut comprendre. Pourquoi est-ce que ça marche bien, en fait, la pression? Pourquoi est-ce que cette pression, ce que la Bible appelle la convoitise, pourquoi est-ce qu'on y répond si souvent? Mais c'est très simple, en fait, hein. C'est que cette pression, donc ce péché, à cette capacité de transformer notre réalité, de nous faire prendre des vessies pour des lanternes, de nous envoyer le message que nous avons besoin de ce qu'il propose pour nous sentir mieux, donc plus heureux, et gna 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 gna, on tombe souvent dans le panneau. Mais c'est un leurre. Les croquettes pour chiens robots, à nos yeux, ressemblaient à des mellowcakes. Ce sont des mellowcakes, parce que moi, ça rentre plus chez moi depuis des années. Hein. Ce sont des croquettes pour chiens et rien d'autre. Et nous n'en avons pas besoin. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas des chiens. Ça, j'espère quand même que vous avez compris. Le premier qui aboie, c'est uniquement notre nouvelle identité en Dieu qui nous permettra de comprendre, j'espère, cette grande réalité ou vérité. Nous ne voyons pas les choses comme elles sont, mais comme nous sommes. C'est un loup, hein, c'est pour ceux qui n'auraient pas compris. Je répète, ça c'est important. Nous ne voyons pas les choses comme elles sont, mais comme nous sommes. Et c'est pour ça qu'on se trompe. Je me rappelle, il y a bien des années, je suis encore très jeune, vous savez bien, mais j'avais reçu la visite lors d'un camp de jeunes, d'un couple, vous venez de s'installer, d'un couple âgé de 16 ou 17 ans qui désirait dormir dans le même lit pendant le camp. C'est un camp chrétien, je précise. Bizarrement, j'ai dit non. C'est étonnant, ça, pour ceux qui me connaissent. Bien sûr que j'allais dire non, ça va. J'ai refusé en disant que nous étions arrivés sur place à 102 personnes et je ne tenais en aucun cas, 3 jours plus tard, tourner à 103. D'accord ? Le garçon m'a regardé et dit « Avoue plutôt que tu ne nous fais pas confiance. » Sans blague. Ce à quoi j'ai répondu « Mais je vous fais confiance, mais je ne fais pas confiance à vos hormones. » Ok ? Discussion aidant, ils ont dû admettre qu'ils ne pouvaient pas garantir qu'ils pourraient se maîtriser. Rappelez-vous, vous avez envie de faire du vélo, ça restera une envie. Vous passez devant un magasin de vélo, vous vous achetez un vélo, vous n'allez pas passer les prochaines semaines à vous amuser avec la sonnette. Hein. Vous allez monter sur le vélo et vous allez pédaler. Okay ? On était un peu dans ce domaine-là. Pour l'anecdote, le lendemain matin, un des encadrants est venu me trouver pour m'informer qu'étant allé aux toilettes en plein milieu de la nuit, il avait retrouvé les deux tourtereaux dans une chambre isolée, prêts à laisser leurs hormones se déchaîner. Ils étaient amoureux, c'est ce qu'ils disaient, et cela transformait leur réalité. Pour l'anecdote encore, mais je ne résiste pas, la fille était fille de pasteur. Devinez ce qu'a fait tonton Yves. Téléphone au papa, tu reviens rechercher ta progéniture. Hein. Vous n'allez pas dire ça à mon père. Je dis, si, c'est exactement ce que je vais faire. Et tu vas assumer. Il y a eu un grand froid quand il est revenu les chercher. Hein. Enfin, elle, pas lui. Le papa s'est contenté de regarder d'une manière assassine le gamin en question. On adapte la lumière à ce que nous sommes plutôt que de la laisser nous transformer. Dans cet entretien avec ce couple, jeune couple, j'ai amené de la lumière dans la discussion. Enfin, moi, Dieu à travers moi, pour le rappeler, il y avait des dangers, machin. Ils n'ont pas adapté leur comportement à la lumière. Ils se sont contentés d'adapter la lumière à leur comportement. Nous devons apprendre à cultiver notre nouvelle identité. Et c'est l'un des plus beaux cadeaux que nous puissions nous faire, bien entendu, très égoïstement, mais aussi faire aux autres. Si vous n'avez pas conscience de ça pour vous-même et par vous-même, croyez-moi, votre entourage, quel qu'il soit, il désire un seul truc, c'est que vous changez. Hein, croyez-moi. Vraiment. À ce propos, on raconte que Michel-Ange, vous voyez, le sculpteur, peintre, suait un jour à grosses gouttes car il tirait un bloc de marbre, pas trop gros, mais enfin tout seul. Et un passant lui a demandé pourquoi il se donnait tant de mal pour, je cite, « un simple morceau de pierre ». Vous savez ce que Michel-Ange a répondu ? Parce qu'il renferme un ange qui veut en sortir. Il avait vu l'ange dans la pierre. C'est exactement ça qu'il faut qu'on apprenne à faire. Il faut qu'on voit le chef-d'œuvre en nous. Il faut qu'on voit l'Esprit de Dieu en nous. Qu'on apprenne à se considérer par rapport à ce que Dieu a fait de nous. Parce que quelque part, c'est comme ça que nous devons apprendre à nous voir aussi les uns les autres. Alors, comment est-ce qu'on fait pour libérer cette nouvelle disposition que Dieu place en nous ? Pour laisser simplement le Saint-Esprit être Dieu en nous ? Eh bien, la réponse tient en une phrase, et c'est de là que nous partirons pour les messages qui suivront. Nous ne sommes pas des êtres humains, ou nous ne sommes plus, j'aurais pu mettre, nous ne sommes pas des êtres humains qui faisons une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels qui vivons une expérience humaine. Le premier membre de la phrase, il était vrai avant notre rencontre avec Dieu. Depuis que Dieu est rentré dans notre vie, nous sommes dans la deuxième partie de la phrase. Nous sommes des êtres spirituels qui vivons une expérience humaine, qui continuons à vivre une expérience humaine, mais habitée par la présence de Dieu. Et ça, normalement, progressivement, ça devrait changer la perspective. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que notre statut a changé. Laissez-moi vous donner un exemple. J'espère que vous allez comprendre mon exemple. Je dis ça parce que, en le rédigeant, je me suis dit, je suis pas certain que ça soit très explicite. Mais enfin, vous me direz. La grande majorité des gens qui lisent le récit des miracles opérés par Jésus dans l'Évangile. Vous savez, dans l'Évangile, Jésus, il en a guéri des gens. Okay, ce sont des miracles. Poser la main sur la tête de quelqu'un et faire que ses oreilles entendent alors qu'il est sourd de naissance, ce n'est pas des choses très courantes. Hein. Ça s'appelle un miracle. Okay. Donc la plupart de ces récits, la plupart des gens qui lisent ces récits, considèrent que ce sont au pire des foutaises ou au mieux une façon de rendre compte de phénomènes thérapeutiques ou scientifiques en utilisant un langage autre que celui de la médecine ou de la science, en gros. Quant aux chrétiens, pour beaucoup d'entre eux, les miracles sont soit des mythes, soit des prodiges surnaturels opérés par Dieu. D'accord ? Moi, je pense que toutes ces personnes que je viens de citer ont tort. Pour moi, et rassurez-vous, je ne suis pas le seul à penser ça, la preuve. Je peux mettre la suivante. Je cite ici le théologien Rürgen Moltmann, que vous connaissez certainement, qui dit « Les guérisons opérées par Jésus ne sont pas des prodiges surnaturels dans un monde naturel, mais le seul naturel dans un monde non naturel, démonisé et blessé. » Là, ma femme se dit « Ça passe au-dessus de ma tête. » C'est plus philosophique qu'autre chose, je n'ai rien compris. Quelqu'un a pensé la même chose qu'Isabelle. Je me suicide juste après, je vous le dis. Hein, mais... je te reconnais bien là. Les miracles, c'est ce qu'il veut dire, je vais traduire, enfin je vais essayer. Les miracles dans ce sens qu'ils sont une marque d'amour envers ceux qui souffrent sont l'expression de la norme que Dieu a fixée pour notre humanité à la base. Il ne devait pas y avoir de maladie. Il ne devait pas avoir de mort. Il ne devait pas avoir de blessure. On n'était pas appelé, on n'a pas été créé pour se massacrer la tronche, de se faire du mal. Pour se rencontrer, devenir pire, alors qu'à la base, on devait devenir meilleur. C'est ce que Moltmann veut dire. Donc ces miracles ne sont pas des miracles. C'est la éruption, si je peux dire ça comme ça. C'est comme si Dieu repénétrait à ce moment-là sa création pour une fraction de seconde à travers la guérison, dit « voilà ce qui n'aurait jamais dû cesser d'être ». C'est un sourd, il entend maintenant ce que je viens de guérir, mais il n'aurait jamais dû devenir sourd. Il est devenu sourd parce qu'il s'est passé quelque chose. Donc nous nous trompons sur la réalité des choses. J'ai pris cet exemple parce qu'on peut, même en étant profondément croyant, en ayant la foi dans les miracles, et je pense que c'est bien de l'avoir, se dire « ah oui, c'est quelque chose de surnaturel ». Ben non, c'est la réaffirmation de ce qui est naturel. Quand Jésus calme la tempête, on dit « waouh, comment est-ce qu'il fait ça ?» Il dit « ah !» Il fait « tais-toi !» et « oup, oup !» La mer se calme, le vent se tait. On aurait bien besoin de ça pour l'instant avec ce qui se passe. Hein. Et tout le monde dit « waouh !» Mais en fait, il réaffirme là ce que l'homme était à l'origine. Il dirigeait la création, c'est ce que Dieu lui a demandé. Une époque où l'homme pouvait faire hey, « hé, le vent, tu me pompais, je suis en train de regarder la télé, tu fais trop de bruit, fini, bouf, voilà. » Mais nous, on en fait « ah !» C'est extraordinaire. Oui, c'est malheureusement devenu extraordinaire alors qu'avant c'était l'ordinaire. On se trompe de perspective. Donc c'est en tout premier lieu, je termine par ça, le regard que nous portons sur les choses et sur les êtres et en tout premier lieu sur nous-mêmes et surtout l'interprétation que nous allons leur donner qui va déterminer ce que nous ferons de ce que Dieu a placé en nous. Parce que, et ça je pense que c'est important de s'en souvenir, pardon. En ce qui concerne Dieu, nous sommes d'ores et déjà vraiment, hein, mais vraiment, ce qu'il a fait de nous. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.